Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Les Orales, le podcast qui s'intéresse aux secrets d'éloquence de professionnels à Bordeaux et parfois au-delà. Chaque mois, je pars à la rencontre d'orateurs et oratrices du quotidien en quête d'anecdotes insolites, d'outils pratiques et d'une bonne dose d'inspiration pour vous faire aimer prendre la parole en public. Comment envisager l'expression que l'on soit à la barre d'un tribunal, face à ses équipes ou devant un parterre d'inconnus ? Je suis David Jadar, formateur en prise de parole et entrepreneur. J'aide chaque année plusieurs centaines de professionnels à gérer leur trac et à s'exprimer de façon percutante en présentation. Installez-vous bien confortablement dans votre fauteuil et bonne écoute.
Je suis une communicante. Ma spécialité, c'est la communication interpersonnelle. Et je suis également dirigeante associée de la société Actif Réseau, qui est un organisme de formation et également un cabinet conseil spécialisé en réseautage professionnel.
Alors, je suis ravi d'avoir pour la première fois une professionnelle du réseautage. C'est pas commun, finalement. De quel constat est né Actif Réseau ? Je crois que c'était il y a 9 ans, c'est ça ?
Alors, ça va bientôt faire 10 ans, au 10 mois d'octobre, nous fêterons nos 10 ans.
Félicitations.
Alors, Actif Réseau est né de deux constats. Le premier, la nécessité, tout simplement, et c'est toujours d'actualité d'ailleurs, de réseauter lorsque nous travaillons dans un marché concurrentiel. Voilà, ça c'est la première chose. Donc, on nous dit souvent, il faut apprendre à se vendre, il faut réseauter, etc. C'est important. Le deuxième constat, c'est que la majorité des professionnels ne savent pas comment réseauter efficacement. Voilà, comment faire concrètement. Et ils ont une démarche plutôt empirique.
Et à quoi ressemble cette démarche empirique, généralement ? Quel est le constat que tu peux faire avec les dirigeants que tu accompagnes au quotidien ?
Alors, il y a plusieurs façons de réseauter de manière empirique, hein, en fonction de son tempérament. Il y a le collectionneur, hein, celui qui va effectivement se rendre sur des événements de networking et puis collectionner des cartes de visite. Voilà, c'est pas la meilleure des façons de réseauter. Et puis, il y a ceux qui n'osent pas, justement. Donc, ils vont se rendre sur des événements, ils vont prendre en contact très difficilement avec des inconnus. Hein, et puis, ils auront du mal à se présenter professionnellement.
Ce que j'aime bien, c'est que t'as un nom d'archétype, il y a le collectionneur. Comment t'appellerais la seconde catégorie ?
Le réservé.
Le réservé, c'est excellent, ça nous permet de faire un album avec tous ces archétypes, très bien. Qu'est-ce que tu préfères faire au quotidien, Catherine, dans ce métier ? Donc vous organisez évidemment des formations au réseautage, au pitch métier dans le cadre de réseautage. Qu'est-ce que tu préfères dans ton quotidien ?
Ah bah, ce que je préfère dans mon quotidien, c'est la relation humaine, hein, puisque tout est lié avec la relation humaine. Donc moi, j'ai plusieurs métiers, à vrai dire. Je suis formatrice, j'ai été formée au métier de formateur. Je suis également coach professionnel, hein, depuis 2004, ça date, mon Dieu. Et je suis consultante. Hein. Donc voilà, donc trois approches pour gérer le réseau. Très différentes. Alors, bien sûr, pour le coaching, on ne réseaute pas, bien évidemment, mais pour le conseil et la formation, c'est le cas. Voilà. Donc, soit j'accompagne le professionnel à optimiser sa démarche réseau, à utiliser correctement les outils et à déployer une stratégie réseau, hein, avec un plan d'action et un suivi derrière, soit effectivement je passe par le biais de la formation.
Si maintenant je te donne un exemple, je suis victime un peu d'anxiété sociale, pour autant je me lance dans l'entrepreneuriat, dans un secteur, je vais prendre un gros cliché, pardonnez-moi, l'informatique par exemple, je me lance dans ce domaine-là et je suis victime d'anxiété sociale, quel serait, ou je me sens pas légitime d'aller aborder des inconnus, quel serait ton premier conseil ? Comment tu pourrais m'aider à franchir le pas ?
Alors déjà, tout le monde peut réseauter, à quelques exceptions près, mais vraiment à la marge. Ok, donc vraiment tout le monde peut réseauter, tout est une question de tempérament, et donc le réseauteur réservé va réseauter différemment du réseauteur extraverti, bien évidemment. Voilà, donc déjà le rassurer. Voilà.
Le rassurer. Et dans la démarche de présentation, on est dans un événement où on a peu de temps pour se présenter parce que notre interlocuteur peut avoir la tête ailleurs, il est peut-être collectionneur justement. Comment tu aides les gens à se présenter de manière efficace, en une minute, deux minutes, de manière un peu percutante?
Bon, alors tu connais Steve Jobs?
Ouais.
Certainement. Ok. Ouais. C'était un tempérament réservé, Steve Jobs. Ok.
D'accord.
Donc, il prenait ses prises de parole. C'est la préparation. Ouais. La préparation et l'entraînement, comme tout, effectivement. Mmh. Donc, il y a une préparation en amont sur ce que nous souhaitons dire, vérifier que, justement, la présentation corresponde bien à qui nous sommes, être à l'aise avec les mots que nous délivrons, effectivement, et adapter, évidemment, son pitch réseau, hein, qui est une présentation orale, hein, une présentation de soi pour faire connaissance et adapter, bien sûr, à son auditoire.
Et j'ai l'impression qu'il y a un facteur extrêmement important dans ce type d'événement, c'est la mise en lien entre ce qu'on fait et ce que notre interlocuteur peut faire au quotidien, trouver cette espèce de symétrie, ou en tout cas de trouver un moyen de pouvoir entrer dans, un peu dans son quotidien.
Alors, tout passe par l'observation et l'écoute,
ouais.
Hein, forcément. Et donc, justement, j'aide mes participants à identifier les signaux qui peuvent leur dire « oui, là, tu peux y aller, hein, c'est confortable pour toi, là, tu n'y vas pas, tu patientes, etc. » Et de cibler les opportunités relationnelles, tout simplement.
Alors, quel est le signal, par exemple, de « là, il ne faut pas y aller » Le feu rouge, c'est un exemple de feu rouge.
Un exemple de feu rouge. Alors, évidemment, attention, le networking ne se fait pas uniquement sur les événements professionnels. Hein.
Bien
sûr. C'est important que les auditeurs le sachent.
Ouais. Hein.
Voilà. Donc, c'est beaucoup plus large. Hein. Il y a beaucoup plus d'occasions de réseauter, fort heureusement. Notamment pour les tempéraments introvertis. Donc, on va prendre un exemple, effectivement, sur le terrain, dans un événement professionnel. Lorsque vous avez un cercle fermé, évitez justement de vouloir le casser, l'ouvrir. Okay, voilà, donc ça, on évite. Un cercle fermé, donc les gens sont vraiment les uns à côté des autres. Il n'y a pas de possibilité d'entrer dans le cercle, on n'y va pas. Okay. Où on se met un petit peu à l'écart pour écouter éventuellement la discussion derrière, hein, et après de saisir l'opportunité de pouvoir rentrer dans le cercle, hein, lorsque les autres vous ont identifié. Voilà. C'est la même chose lorsque vous avez deux personnes qui discutent, qui sont très concentrées l'une avec l'autre. Vous ne venez pas les interrompre, surtout pas, ça les agace. Voilà, ça c'est une technique de l'extraverti que j'observe souvent. Ah, Catherine, comment vas-tu? J'étais en pleine conversation et là, effectivement, la personne rompt la discussion et ça peut être mal vécu. Voilà.
Et au contraire, donc des signaux positifs, donc par conséquent, ça peut être un groupe plutôt ouvert et une conversation qui n'est peut-être pas arrivée à maturation, donc on peut s'immiscer. Est-ce qu'il y en a d'autres, des signaux pour quelqu'un d'un peu introverti? Quels conseils on pourrait...
Ah oui, il y en a un que j'adore, c'est juste toujours sur les événements, c'est de repérer les personnes seules.
De repérer les personnes seules. Et c'est voilà. Vrai qu'il y en a toujours en début d'événement, on sent les nouveaux, ouais, on les voit, on les repère.
Exactement, ouais. Donc voilà, vous êtes sur le même statut, la même envie, hein, très certainement, de faire connaissance, donc aller vers ces personnes-là, à une seule condition, c'est qu'elles ne soient pas au téléphone, hein, et qu'elles ne soient pas occupées par leur téléphone, bien évidemment.
Voilà. Il y a une chose que je fais souvent, c'est que je regarde ce que la personne regarde et je fais une petite blague dessus. C'est-à-dire que si on est devant un buffet, si on est devant un verre, si on est devant... Je fais de l'humour comme ça d'observation pour briser un peu la glace et pour amorcer un échange. Qu'est-ce que t'en penses de ce genre
Ça fait partie des techniques de brise-glace, hein, tout simplement. Elles existent,
okay.
Hein, oui, elles ont été... Et d'ailleurs, nous les proposons, hein, dans le cadre de nos formations, notre accompagnement, effectivement. Donc, on a une kyrielle de phrases, hein, que nous avons travaillées pour nos participants, voilà, pour justement leur donner les moyens de savoir quoi dire concrètement, à vrai dire.
Oui, puis j'imagine qu'il y a aussi un art du questionnement. Il y a pas très longtemps, j'ai eu derrière ce micro Nicolas Morbi qui se charge d'aller recruter des gens dans la rue et qui a longtemps travaillé pour des ONG, tu sais, ces gens qui viennent te démarcher. Mmh. Et il me parlait de ces techniques d'approche à l'époque. Et donc, il y avait la question ouverte, il y avait l'humour. Donc j'imagine que c'est toute une carrière d'outils de ce type-là, c'est ça ?
Effectivement, ouais. L'art du questionnement.
Okay. Ouais, ouais. Il y a également l'art de réseauter, tu en parlais, c'est pas que lors d'événements professionnels, ça peut aussi être dans le cadre, par exemple, de LinkedIn, les réseaux sociaux professionnels. Quels sont vos domaines d'intervention ?
Alors, je n'en ai qu'un seul, puisque c'est mon terrain de jeu, c'est LinkedIn. Voilà.
LinkedIn, d'accord,
voilà.
Justement.
Donc, j'ai préféré me spécialiser sur un seul réseau social, qui est le réseau social professionnel mondial de référence, LinkedIn, qui a été lancé en 2003, qui a vite été rentable en 2006, très rapidement, avec le sourcing emploi, qui a eu le temps de se globaliser, avant la création d'Active Réseau d'ailleurs, faut le savoir. Et puis avec le rachat de Microsoft en 2016, forcément, cette plateforme a explosé et a proposé aussi d'autres fonctionnalités, dont la prospection, justement. Et donc, c'est vrai que sur LinkedIn, on peut réseauter, toujours, heureusement. Hein, c'est quand même l'ADN de ce réseau social. Et on réseaute bien. Mais on peut aussi, aujourd'hui, effectivement, recruter, bien évidemment, et prospecter.
Voilà. Oui, on n'est pas forcément obligé d'avoir un compte premium pour bien prospecter sur LinkedIn. Je suis tout jeune indépendant, je me lance dans l'entrepreneuriat encore une fois. Quels seraient tes conseils pour bien prospecter sur LinkedIn? Je me permets un anglicisme, les do et don't do du parfait LinkedIner.
Alors, je ne parlerai pas de prospection parce que justement, notre spécialité, c'est le réseautage. Et je vais faire un point là-dessus, c'est très très important que nos auditeurs comprennent vraiment la différence entre réseauter et prospecter. Ce sont deux activités en parallèle qui sont complémentaires pour après vendre. Okay. Voilà, dans la démarche commerciale, c'est vrai très souvent, d'ailleurs pour avoir discuté longuement avec différents commerciaux, ils me disent « Oh, mais le réseautage, ça fait partie de la vente ». Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que lorsqu'on réseaute, on ne vend pas, on n'a rien à vendre. Et c'est ça l'intérêt. C'est parce qu'on n'a rien à vendre que très souvent, on identifie des opportunités de vente. Voilà. Donc, le réseautage, c'est comment identifier des opportunités d'affaires sans prospecter, sans démarcher. Voilà. Et donc, sur LinkedIn, on peut faire les deux. Et moi, je me suis spécialisée, nous sommes spécialisés, effectivement, dans le réseautage.
Et quelle est ta manière d'aborder pour le réseautage des profils sur LinkedIn, des gens que tu ne connais pas et que tu aimerais approcher, comment tu ferais ?
Alors déjà, un outil qui est commun aux deux activités, que ce soit la prospection ou le réseautage, c'est la veille. Okay, la veille économique, la veille juridique, toute la veille, de façon, la veille stratégique. Donc c'est de prendre l'habitude régulièrement de lire, de s'informer, de se nourrir. Et c'est en lisant, effectivement, que j'identifie des profils, effectivement, qui m'intéressent. Et donc, je m'intéresse à eux derrière. Et parfois, je les suis, parfois, je les invite dans mon réseau. Tout va dépendre, effectivement, du profil et de son intérêt pour moi et mes contacts. Parce que le réseautage, avant tout, c'est de l'entraide.
Et de la mise en lien.
Exactement. Donc voilà, j'étudie toujours le profil en me disant, bon, cette personne-là, quelle est sa valeur ajoutée pour mon réseau relationnel, hein? Est-ce que j'ai ce profil ou pas derrière? Et puis, bien sûr, il y a d'autres critères qui rentrent en compte derrière, bien évidemment. Mais on va dire que c'est le principal, si je puis dire. Voilà, il y en a bien d'autres. Et en fonction de ça, effectivement, j'agis, tout simplement.
On m'avait suggéré à mes débuts de ne jamais aborder de manière frontale un nouveau contact sur LinkedIn, c'est-à-dire de déjà vouloir vendre quelque chose dès la première prise de contact, chose qu'on peut au quotidien un peu subir aussi. Moi, il m'arrive d'être contacté des fois pour des choses qui n'ont rien à voir avec mon domaine d'activité et on veut absolument me vendre quelque chose. Tu confirmes qu'il faut essayer d'avoir une stratégie peut-être en plusieurs temps, si on a envie de développer son réseau.
Alors, là aussi, deuxième amalgame, c'est un classique, c'est faire amalgame entre l'approche directe, le réseautage et la prospection. L'approche directe peut s'opérer autant dans une activité de réseautage que dans une activité de prospection. La prospection, c'est clair, on sait, c'est le démarchage. Voilà, on a identifié un client potentiel, plus ou moins bien, c'est bien ça le problème. Parce que très souvent, justement, c'est pas un client potentiel. Voilà, démarchage, et tout de suite, on se présente et on propose ses prestations. Ça m'arrive régulièrement sur LinkedIn. Okay. L'approche directe en matière de réseautage, l'objectif, c'est de faire connaissance. Voilà. De prouver, démontrer à la personne qu'on est intéressé par son profil, par ses compétences, par son expertise, par ce qu'il publie, etc. Et uniquement ça, sans rien lui vendre, sans rien lui proposer de son expertise.
Et j'ai le sentiment que c'est plutôt une démarche assez, assez rare, parce que souvent les gens s'ajoutent. Moi, il y a des gens que je ne connais absolument pas, parfois, qui m'ajoutent, et c'est le jeu, et il m'arrive aussi de le faire. Et alors, ce que j'aime bien faire, c'est un petit message, je serais ravi de vous avoir parmi mon réseau, votre profil a retenu mon attention, mais peu de gens font ça. Et j'ai l'impression que c'est un peu le Far West, quoi, LinkedIn. Il y a un peu à boire et à manger dans les contacts qu'on peut enregistrer semaine après semaine.
Alors, c'est naturel parce que LinkedIn fait partie des réseaux sociaux. Et dans les réseaux sociaux, on est dans l'instant, dans l'émotion, dans la réactivité, forcément. Et puis, bah, sur notre smartphone, on a tous des smartphones. LinkedIn nous fait des suggestions, justement, de mise en relation. Hein, on appuie sur le bouton, c'est rapide. Et ah, zut, où est-ce que je peux m'ajouter un message ? Hein, difficile. Donc, alors que sur l'ordinateur, effectivement, on nous le propose, hein, systématiquement. Donc oui, effectivement, c'est la facilité hein, d'entrer en contact avec une personne. Allez, on clique sur le profil et puis on reçoit une demande. Or, le réseautage, si on veut le faire efficacement, derrière, on est dans une approche qualitative. Encore dernièrement, j'ai un jeune en apprentissage qui est dans le développement informatique, qui m'a demandé en contact derrière. Je trouvais le profil intéressant, donc je l'ai accepté dans mon réseau, je lui ai envoyé un petit message, etc., pour faire connaissance. Et puis, bon, il ne m'a pas répondu vraiment directement, donc on n'a pas encore vraiment échangé sur qui il est, ce qu'il souhaite faire, etc. Mais il m'a posé une question sur mon activité, sur Actif Réseau. Donc j'ai répondu très volontiers. Et puis après, il est allé sur mon profil, ce qui est une bonne chose, hein, il s'est intéressé à mon profil. Et il m'a dit « Ah, madame, je pourrais vous aider parce que vous n'avez que 1500 contacts ». Et j'ai dit, mais en quoi vous pouvez m'aider ? Il me dit, ben oui, ben, ce serait bien de mettre en place des techniques de prospection pour avoir plus de clients potentiels. Et je lui dis, mais je ne prospecte pas, je fais du réseautage. C'est-à-dire que mon réseau relationnel LinkedIn n'est pas un fichier de prospects. Voilà, et c'est logique puisque nous vendons du réseautage. Hein. Donc, il faut être cohérent avec ce que l'on propose. Donc voilà, il y a une différence entre mon CRM et mon réseau relationnel virtuel LinkedIn. Deux choses différentes.
Pourtant, LinkedIn est un outil fabuleux pour parler directement aux décideurs.
Oui.
Donc, mais malgré tout, tu conseilles plutôt de rester en mode réseautage sur ce réseau. Et comment t'enclenches la phase, si tu as envie de développer du business derrière, comment... C'est le passage entre les deux qui m'intrigue.
Non, il est tout simple. C'est la production de contenu. Tout simplement, voilà, c'est à partir du moment où tu communiques régulièrement, où tu donnes de l'information gratuitement, où tu démontres quel est ton champ d'expertise derrière, forcément les gens vont te suivre, et puis un jour quand il y aura un besoin, ils vont te recommander, ou alors font appel à tes services. Moi, c'est ce qui m'arrive assez régulièrement, c'est que les gens effectivement me proposent d'intervenir sur tel et tel sujet, hein. C'est aussi simple que ça, hein. Donc c'est la stratégie de brand content, voilà, et c'est le fameux personal branding qui est important. Donc on parle beaucoup de personal branding, moi je l'inclus plutôt dans le marketing de soi, hein, qui est beaucoup plus large, hein, parce que j'ai fait une école de commerce, je suis une marketeuse et une communicante bien sûr, je me suis spécialisée dans la communication interpersonnelle, mais c'est vrai, mes fondamentaux sont liés au marketing et à la com, et donc bah oui, quand on désire mieux réseauter, il s'agit aussi de travailler son marketing.
Et quelles sont les choses à éviter à tout prix quand on se lance dans l'entrepreneuriat ou qu'on souhaite en tout cas développer son réseau, justement en termes de personal branding, est-ce que tu vois des choses à éviter absolument?
Alors, c'est le miroir aux alouettes, c'est les propositions de facilité, hein. On en a beaucoup, ouais, notamment sur LinkedIn ou via email. Je vous propose de gagner tant de clients en tant de mois, etc. On voit ça aussi sur TikTok, hein, beaucoup, grâce effectivement à des logiciels qui vont permettre effectivement de capter un maximum de leads derrière, de clients potentiels. Moi, je dis attention à ça, attention au miroir aux alouettes. Déjà, travaillons qui nous sommes, travaillons notre raison d'être. Voilà, notre proposition de valeur, notre promesse derrière. Travaillons nos cibles aussi, c'est quand même très important, les personas. Voilà, mettons en place une stratégie hein, pour développer l'activité, on la teste, voilà, hyper important. Et puis surtout, l'important, et ça fait partie d'ailleurs de l'activité du réseauteur, c'est savoir bien s'entourer. Alors je dis pas que c'est facile, hein. Bien évidemment, ça prend du temps, mais c'est d'identifier de vrais professionnels, hein, parce qu'on fait pas de la communication avec n'importe qui. Hein, c'est d'entourer de vrais professionnels de la communication. Et puis surtout en matière de création d'entreprise, on a la chance d'être en France, on a tout ce qu'il faut. Mmh. Ouais, il y a des organismes publics, parapublics, des associations qui nous accompagnent effectivement pour lancer une activité. Donc il y a de quoi se nourrir, s'informer avant de se lancer. Ok. Donc, s'il vous plaît, évitez la précipitation, surtout, c'est essentiel.
Et est-ce qu'il y a un exercice maintenant, Catherine, que tu aimes faire à tes clients en matière de réseautage, une mise en situation, un petit jeu ludique? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient en tête que tu accepterais de partager pour qu'on ait un aperçu de tes activités chez Actif Réseau?
Alors, ce que j'aime bien, c'est les mettre en situation. Parce que nous sommes des formatrices vraiment pratico-pratiques, hein, avant tout. C'est, voilà, bien sûr qu'on transmet de la méthode, des bonnes pratiques, etc. Mais elles passent forcément derrière par de la mise en pratique. Okay. Donc, ce que j'aime bien, c'est mettre en place des jeux de rôle, hein, contextualiser hein, des situations de réseautage hein, et les faire jouer. Voilà, concrètement. Parce que je me rends compte très souvent qu'il y a une grande différence entre je sais et je fais. Voilà. Parce que les réflexes relationnels reviennent systématiquement. Et il s'agit de les corriger. Hein. Donc, désapprendre pour réapprendre. Pour que ça devienne vraiment un réflexe.
Et d'autant plus que vous intervenez sur quand même des savoir-être, sur aussi l'énergie, le sourire, la faculté un petit peu de capter la bienveillance des gens quand on pénètre dans un nouvel environnement ou un nouveau cercle. Donc, comment vous mesurez le succès de vos clients? Quels sont vos indicateurs? Ça y est, là, ils ont progressé.
Alors déjà, deux choses. Ce n'est pas uniquement du savoir-être. Hein. Attention, ça, c'est la première chose. Du tout, il y a vraiment de la méthode, il y a des outils. Okay. Donc, quand on accompagne que ce soit des dirigeants ou des salariés dans la pratique du réseautage, déjà, on leur transmet la démarche, hein, la méthode, bien évidemment, derrière, et les outils qui vont avec. Hein. Donc, et c'est important de pouvoir bien maîtriser les outils. On va prendre un exemple, LinkedIn, dont on a parlé, bien évidemment, mais il n'y a pas que LinkedIn. Il y a aussi le réseau professionnel, hein, on va dire physique, hein, moral, une identité morale, hein, comme par exemple le réseau APACOM, hein, que tu connais bien, qui est le réseau des communicants.
Qu'on salue. Hein,
voilà, effectivement, qu'on salue pleinement. Et bien savoir voilà, comment s'en servir, comment justement utiliser ce réseau professionnel hein, dans une démarche bienveillante et d'entraide. Ok, essentiel. Hein. Par exemple, dans un réseau, dans ce réseau-là, qui est un réseau métier, hein, eh bien, on ne prospecte pas. Ça ne se fait pas, ça ne fait pas partie des usages. Mmh. On peut identifier des opportunités d'affaires, bien évidemment, hein, on ne va pas s'en priver, mais avant tout, on n'est pas là pour prospecter pour des marchés. Okay. Alors qu'il y a d'autres réseaux qui sont faits pour ça, comme par exemple un réseau d'affaires. Donc là, on leur présente effectivement les bonnes pratiques d'utilisation des outils, que ce soit et on rentre vraiment dans le détail des réseaux, puisqu'on a identifié, cartographié l'ensemble des réseaux professionnels hein, par catégorie derrière et leur fonctionnement. On rencontre régulièrement justement les têtes de réseau hein, et on participe à des événements pour comprendre comment fonctionnent de l'intérieur ces réseaux professionnels. Ouais. Voilà. Donc il y a les réseaux professionnels, LinkedIn et il y en a bien d'autres. Hein, et le pitch réseau en fait partie. Parce qu'on se rencontre aussi dans le pitch réseau que c'est souvent un pitch commercial et pas un pitch réseau.
Et c'est quoi la clé d'un bon pitch réseau selon toi? Sans nous dévoiler toutes tes recettes, mais...
Le bon pitch réseau, c'est celui qui ne présente pas ses prestations de service, tout simplement. On n'est pas là pour présenter son entreprise, avant tout. Le pitch réseau, l'objectif du pitch réseau, c'est de faire connaissance avec la personne qui est en face de vous. Voilà. On n'a pas un client potentiel en face.
Donc on pose des questions, on fait de la mise en lien entre ce que la personne fait et ce qu'on fait aussi vaguement. Comment on s'y prend?
Alors absolument pas. Le pitch, c'est vraiment un discours d'introduction.
Ouais.
Donc il n'y a pas de questions. Du tout. On est vraiment dans un discours d'introduction comme n'importe quel pitch, hein, voilà. Donc il a besoin d'être attractif, clair, cohérent, hein, et il donne envie d'en savoir plus. Donc justement, il va susciter l'interrogation, le questionnement. Mmh. Voilà.
Une fois que tu as établi des contacts très sympathiques à travers LinkedIn ou à travers des événements, comment tu les entretiens ? Comment tu fais pour revoir éventuellement les personnes, pour entretenir le lien ?
Ça, c'est une excellente question, parce qu'il y en a beaucoup de nos clients qui nous disent « Mais comment est-ce qu'on fait pour pouvoir entretenir le lien de tous nos contacts ?» Mmh. Alors, je les rassure. Effectivement, l'année est composée de 365 jours, hein. La journée de 24 heures, ok. 8 heures de travail, c'est bien, ça suffit largement. On ne peut pas effectivement entretenir tous nos contacts initiés, hein, bien évidemment. Mais avant de savoir comment les entretenir, il est important de savoir si oui ou non on donne suite. Eh oui. Hein, on peut faire connaissance avec une personne, et bien après, il n'y a pas de nécessité, hein, à développer le lien du tout. C'est déjà se poser la question, est-ce que j'ai envie ou pas, hein, hein, de développer ce lien, de faire plus ample connaissance, hein, et après, effectivement, de cultiver la relation.
Et donc, si j'ai envie, comment je la cultive, cette relation ?
Alors, déjà, comme toute nouvelle relation, il est important de s'investir un minimum dans cette nouvelle relation pour la stabiliser. Et donc, dans la durée, pour la stabiliser dans la durée, ce n'est pas la fréquence qui compte, effectivement, mais c'est la régularité. Très important. C'est de prendre l'habitude, hein, de prendre des nouvelles de ses contacts, hein, ou de les alimenter, de leur donner de l'information. Une petite astuce, moi j'aime bien lire mon journal Sud-Ouest, hein, tous les matins, hein, c'est mon côté tradi, hein. Je l'ai en version numérique, hein. Mais bon, j'aime bien aussi le papier, hein. Ben, moi j'ai commencé quand même dans l'édition, donc forcément j'aime bien le papier. Et quand je lis mon journal Sud-Ouest, je lis un article. Alors bien sûr, hein, j'ai pas le droit de republier des articles de Sud-Ouest, hein, c'est interdit, hein, je le sais. Mais je peux effectivement transmettre de l'information à certains membres de mon réseau relationnel en me disant, tiens, ça c'est une info qui pourrait intéresser un tel, voilà, et je donne l'info. Hein? Donc je vais nourrir mes contacts, effectivement, de mes expériences de lecture, de mes rencontres, de toute expérience, hein, quotidienne.
Je fais en sorte d'apporter de la valeur, en fait, à mon réseau proche, d'apporter de la valeur et d'avoir une utilité pour eux, en vue donc d'entretenir donc ce lien. Très bien. Quel est le meilleur conseil qu'on ait pu te donner dans ton activité ?
Le meilleur conseil qu'on ait pu me donner, c'est qu'on m'ait dit, surtout Catherine, l'important ce n'est pas de savoir, c'est de savoir qui c'est. Voilà. Donc c'est lié au réseautage.
Et c'est lié au réseautage.
Effectivement.
Donc, connaître son sociogramme.
Exactement. Ok. Parce que bon, notre mémoire, on dit, il paraît que notre mémoire est illimitée, c'est possible, hein, mais ça se travaille, hein, comme un muscle, comme un sportif. C'est vrai. Et donc voilà, l'important c'est de s'entourer de personnes qui savent, hein, et qui potentiellement peuvent effectivement répondre aux demandes, aux besoins, hein, de notre entourage. Voilà, c'était vraiment un bon conseil. Et je l'ai appliqué, alors pour une petite histoire quand même intéressante, qui est amusante. J'ai travaillé pour Ediard, qui était, parce que malheureusement c'est une société qui n'existe plus, c'était une épicerie fine de luxe qui était concurrente de Fauchon, pour ceux qui connaissent et celles qui connaissent. Et donc j'étais sur la fonction communication, et le dirigeant m'a demandé effectivement de m'occuper des relations presse. Je ne connaissais rien au métier de relations presse. J'avais fait une école de commerce, j'avais développé effectivement des compétences en communication commerciale, mais alors les RP, absolument pas. Comme j'avais l'habitude de réseauter, j'ai eu l'idée tout simplement de contacter le directeur du Figaro, hein, des pages Art de vivre du Figaro, et de leur demander s'ils étaient d'accord pour que je fasse un stage chez eux durant mes vacances. Ah, ils étaient sans voix. Une professionnelle veuille faire un stage chez eux. Et je leur expliquais pourquoi. Je ne connais pas du tout le métier d'attaché de presse. J'aimerais savoir quels sont vos besoins, quelles sont vos attentes, hein, vis-à-vis d'une attachée de presse. Donc, bah, ils m'ont présenté toutes leurs attentes, tous leurs besoins, etc. Et j'ai mis en pratique. Et en fin de compte, et c'est vrai que ça a été aussi une des clés en matière de réseautage, j'ai compris que l'important, c'était d'aider son entourage. Et quand des journalistes m'appelaient pour un produit, ou etc., quand le produit n'était pas référencé chez nous, j'envoyais directement chez la concurrence. Ils étaient très surpris, ils me disaient « Mais Catherine, ce sont tes concurrents, donc tu vas leur donner la visibilité. » Je dis « Mais l'important, c'est de vous aider. » Et après, ils ont pris l'habitude de m'appeler en premier. Voilà, donc j'étais la première servie, c'est vrai. Hein, donc c'était un avantage concurrentiel, certes. Mais avant tout, ce qui était important pour moi, c'était de faire en sorte justement de créer ces liens de confiance, hein, et d'être vraiment à chaque fois une offreuse de solutions. Donc, j'insiste là-dessus, ce qui est très important dans le réseautage, c'est l'entraide. Et de savoir équilibrer les rapports. C'est bien de donner, mais il est aussi important de savoir demander. Hein. Ça aussi, c'est, on travaille beaucoup la demande dans nos formations, parce qu'on ne peut pas tout demander, hein, à nos contacts. Hein. Savoir doser, pour pouvoir demander efficacement.
Et est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur une demande, qu'on a un aperçu d'une demande efficace ?
Alors moi, je vais vous parler plutôt d'une demande inefficace, hein, parce que c'est souvent ce qu'on rencontre. Voilà, bah, je recherche un job, est-ce que tu peux m'aider ? Voilà, et ça ne fonctionne pas.
Mais
pourquoi ?
Oui.
Parce qu'en face, on n'a pas un chasseur de tête.
Et ça met une pression de dingue en face.
Et effectivement, et non, en réalité, pas forcément une pression. Alors une pression de dingue, si effectivement c'est un ami. Oui, là, effectivement, la charge émotionnelle est importante. Ou pas, ça dépend, mais généralement, c'est le cas. Mais quand c'est un lien faible, la personne est complètement désœuvrée. Elle dit, mais je ne peux pas t'aider, je n'ai aucune idée, je ne connais personne qui recherche un profil comme le tien. Donc voilà, la personne est désœuvrée. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un recruteur ou un chasseur de tête. Hein ? Donc très important de savoir cibler sa demande et que la personne qui la reçoit puisse y répondre facilement.
Et justement, j'allais te demander, est-ce que tu distingues dans cette démarche-là les personnalités qu'on peut tendre, je pense aux décideurs, aux grands dirigeants, d'autres personnalités qui vont être peut-être plus faciles d'accès ? Est-ce que dans la manière d'approcher des contacts, tu fais une distinction entre les décideurs qu'on peut tendre, qui sont toujours appelés par Mons et par Vaux, et les autres, qui sont peut-être plus accessibles ? Et si oui, comment s'y prendre avec un décideur qui a relativement peu de temps ? Je pense par exemple à des personnalités publiques, je pense à des dirigeants de grandes entreprises, si j'ai envie de les approcher.
Alors, première étape, les suivre leurs interactions sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn. Malheureusement, très souvent, ce ne sont pas eux qui écrivent, hein. Voilà. Donc
Mais non, mais quelle déception.
Oui, je sais. Voilà. Leur temps est compté. Mais parfois, ce sont eux. Ça se repère assez facilement. Après, on voit le ton, etc., quand c'est un peu différent, quand on les suit. Et puis après, justement, c'est de saisir des opportunités de réagir, de commenter leurs échanges derrière, et surtout de répondre à leurs besoins, tout simplement. Voilà. C'est la meilleure façon de créer du lien. C'est il y a une problématique, etc., hein, c'est de pouvoir y répondre. Hein, et là, vous allez les intéresser.
Comment on propose justement cette aide ?
Alors, ce n'est pas proposer une aide, c'est tout simplement ce qu'on appelle saisir une opportunité.
Ouais.
C'est-à-dire que le réseauteur, c'est le bon réseauteur, c'est celui qui écoute, qui observe. Hein. Moi, il y a un proverbe que j'adore qui me dit que si on a deux oreilles et une bouche, c'est pour écouter deux fois plus qu'on ne parle. Hein ? Eh oui. Donc, et on pourrait dire la même chose pour les yeux. Hein ? Donc, observer, écouter, et en fonction justement de ce qu'on écoute et ce qu'on observe, eh bien derrière, on peut saisir des opportunités. Voilà. Et ça, c'est lié aussi à ma formation. Hein. Donc, l'offre, la demande, hein. C'est aussi simple que ça. Voilà. Mais tant qu'il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'offre.
En termes d'actualité, où est-ce qu'on peut te retrouver, Catherine ? Quelles sont l'actualité d'Actif Réseau ces prochaines semaines, ces prochains mois ?
Alors, si vous voulez tout savoir d'Actif Réseau, allez sur LinkedIn. Okay ? Suivez notre page entreprise, elle est alimentée quotidiennement, sauf en période de vacances. Là, on va un peu décélérer, c'est normal. Voilà, à partir du mois d'août, derrière, donc effectivement, notre chargée de com publie régulièrement du contenu. Et puis moi, bien sûr, hein, si vous voulez échanger avec moi, contactez-moi sur LinkedIn. Je réponds à toutes les sollicitations écrites, bien évidemment. Voilà. Sinon, bah, c'est au fil de ce que je peux lire et de mes sélections personnelles. Voilà, j'accepte ou je n'accepte pas.
Alors, merci beaucoup, Catherine, pour cet échange. Merci d'avoir partagé à la fois des outils, ton expérience donc du réseautage. On peut donc te retrouver chez Actif Réseau à Bordeaux, réseau avec un O, je crois.
C'est ça, et tout accroché.
Et tout accroché.
C'est une particularité, voilà, R-E-S-O, voilà. Et nous sommes à Bordeaux, effectivement, barrière judaïque, mais aussi en ligne, bien évidemment.
Donc un grand merci pour ce temps partagé. Chers auditeurs et auditrices, je vous retrouve très bientôt. Si cet épisode vous a plu ou si vous aimez écouter ce genre de podcast, n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le faire savoir en lui laissant une belle note ou en le partageant et le commentant sur les réseaux sociaux. Que ces conseils de communication puissent vous être utiles et à vos proches. Je m'appelle David Jadar et vous pouvez me retrouver sur mon site internet lesorales.fr